Oui, c'était le 8 novembre dernier à Lourdes. Les évêques réunis en assemblée plénière avaient voté la résolution de vivre une journée de prière pour les victimes de violences et agressions sexuelles, d'abus de pouvoir et de conscience au sein de l'Église. Nous y sommes. En ce troisième dimanche de carême, cette journée de prière se déroulera selon les diocèses de notre région, samedi 19 ou dimanche 20 mars, et pour certains, cet après-midi même. Pour faire le point sur cette journée et l'accompagnement des victimes de ces abus, l'archevêque de Toulouse est notre invité. Bonjour Monseigneur de Kerimel.
Bonjour à vous.
Monseigneur, vous participerez samedi 19 mars à un temps de prière avec et pour les victimes des abus sexuels dans l'Église. Ce sera pour le diocèse de Toulouse à l'église du Sacré-Cœur à 15h30. Que souhaitez-vous que chacun vive à travers ce temps ?
Eh bien, je souhaiterais que les victimes se sentent reconnues et soutenues par l'Église et qu'elles puissent, à travers ce temps de prière, trouver du réconfort, de la consolation. Et encore une fois, qu'elles se sentent particulièrement reconnues, parce que vous savez que ça a été quand même un des drames, c'est ce manque de reconnaissance par l'Église et donc ce silence dans lequel elles ont été enfermées par leurs abuseurs souvent, et ensuite par l'entourage et par l'Église qui a mis du temps à reconnaître et à découvrir la souffrance des victimes. Donc c'est pour moi une étape importante.
Oui, bien sûr. Le thème de ce temps de prière que vous avez choisi, c'est porter les fardeaux les uns des autres. Est-ce que ça signifie que, enfin, chacun doit se sentir solidaire, chaque chrétien, chaque catholique doit se sentir solidaire de ses victimes ?
Absolument. Et comme le pape le rappelait, le pape François, en citant... donc Saint Paul, quand un membre du corps souffre, tous les membres souffrent aussi. Et donc nous devons nous sentir solidaires. Et je pense que autant les évêques maintenant ont pris conscience, je ne suis pas sûr que l'ensemble des chrétiens aient pris conscience, à part évidemment ceux qui sont touchés de près par ces abus. Je ne suis pas sûr que l'ensemble du peuple de Dieu ait pris conscience de notre responsabilité, de notre solidarité vis-à-vis des personnes victimes.
Oui. Oui. Et donc,
il nous faut le signifier par ces temps. Nous avons encore du travail à faire, je pense, pour aider les victimes à retrouver une vie la plus normale possible d'une certaine manière, et surtout être dans le regard sur l'Église, ou qu'elle puisse être apaisée dans leur rapport à l'Église catholique.
Et comme vous faites mention à cette citation du pape François qui l'a emprunté de Saint Paul sur quand un membre du corps souffre, c'est le corps tout entier qui souffre. En fait, cette démarche aussi de prière vient restaurer aussi, vient guérir le corps tout entier de l'Église.
Absolument, absolument. Il y avait donc cette épreuve, disons, est une pour l'Église, c'est une grande purification et permet encore une fois de découvrir mieux la gravité du péché des membres de l'Église, donc de nos frères dans le sacerdoce, de laïcs aussi qui ont été parmi les abuseurs. Et donc pour nous aussi de travailler à ce que l'Église redevienne une maison sûre et une maison justement pour les plus petits, pour les personnes abîmées, un lieu de consolation, un lieu de guérison. Et donc c'est aussi le fait de prendre, de remettre les victimes au centre de cette démarche me semble important.
Vous évoquez, Monseigneur, cette nécessité de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que l'Église soit une maison sûre. Une cellule d'écoute avait été créée par votre prédécesseur, Monseigneur Robert Le Gall. Vous-même, vous vous mettez parfois à la disposition des victimes pour les écouter. Que vous disent-elles ?
Alors d'abord, oui, j'ai toujours exprimé ma disponibilité à écouter les victimes qui souhaitaient rencontrer l'évêque. Et je l'ai fait comme évêque de Grenoble. J'ai commencé à le faire ici à Toulouse. Et bien les personnes, elles disent ce qu'elles ont envie de dire à l'évêque, soit leur colère contre l'Église, soit un peu de partager ce qu'elles ont vécu et les souffrances qu'elles ont vécues et qu'elles vivent. Et donc cela demande bien sûr beaucoup d'écoute et de compassion. Voilà, il n'y a souvent pas grand-chose à dire qu'un silence accueillant et une disponibilité de cœur et en même temps manifester que nous sommes avec elle, et résolument. C'est tout le travail d'écoute, de compassion, et puis parfois bien sûr, alors si ce sont des abus qui n'ont pas été encore signalés, bien sûr, soit nous encourageons les personnes victimes à signaler au procureur de la République, soit nous le faisons nous-mêmes.
Est-ce qu'il y a des enseignements que vous pourriez tirer de ce que vous disent les victimes ?
L'enseignement, c'est que nous ne sommes jamais assez attentifs aux signaux faibles et que parfois derrière des petits appels ou derrière tel ou tel comportement, il peut y avoir de grandes souffrances. Et donc ça, c'est un enseignement. L'enseignement pour moi, c'est qu'il nous faut toujours accepter de descendre pour rejoindre la personne là où elle est, dans sa souffrance, dans sa détresse, dans ses questions. Et donc, il y a un travail ça nous apprend l'humilité.
Ah oui.
Aussi, ça nous apprend notre propre pauvreté, notre impuissance devant les grandes misères. Il y a des choses qui sont irréparables. Et donc, accepter cette radicale impuissance et en même temps manifester notre engagement vis-à-vis des personnes blessées. Donc, c'est un enseignement très... Au fond, c'est l'école de la croix. Hein. C'est la science de la croix, comme aurait dit Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix.
Edith Stein. Lors de votre première interview sur Radio Présence le 14 décembre dernier, vous nous aviez fait part du travail avec d'autres évêques pour, je reprends vos mots, ajuster la formation des prêtres et des séminaristes pour aujourd'hui. Où est-ce qu'en est cette réflexion ?
Il y a un travail qui se fait, qui s'est fait. Donc, depuis quelques années, il y a eu un document romain de mise à jour de la formation des futurs prêtres et qui, ensuite, chaque pays devait l'adapter pour son propre pays. Donc, il y a eu un travail fait par les évêques en France pour adapter à la situation française. Et disons qu'aujourd'hui, il y a dans la formation des futurs prêtres, il y a vraiment une intégration de la prise de conscience des questions affectives, relationnelles, sexuelles, de la dimension psychologique aussi, des fragilités, des blessures psychologiques. Et donc, cela, c'est maintenant bien intégré. Il y a la question aussi de la présence de laïcs et de femmes dans la formation, là aussi. Donc, tout cela, ça commence à être bien intégré. Après, on peut penser, je pense que on peut aller plus loin. Mais donc, il faut bien réfléchir au fond, c'est quoi un prêtre ? C'est quoi un prêtre pour les temps qui sont les nôtres ? C'est quoi un prêtre pour l'Église aujourd'hui ? Et donc, à partir de là, quel type de formation ? Ils ont besoin d'une solide formation spirituelle, bien sûr, d'une solide formation humaine, d'une solide formation théologique. Et d'être vraiment des frères au milieu de leurs frères et en même temps ceux qui ont une mission particulière, celui du Christ, pour conduire la communauté et donc présider les sacrements. Mmh. En communion avec l'évêque. Donc il y a une dimension, alors aujourd'hui avec la démarche synodale, on voit bien aussi que comment intégrer cette dimension synodale dans la formation des futurs prêtres, ça me paraît important. Voilà, donc un certain nombre de points d'attention qui justement peuvent aider à sortir des travers du cléricalisme. Cette tentation de voir les choses à partir d'en haut et de voir les personnes même à partir d'en haut et le prêtre doit être un serviteur et bien sûr il a une grâce particulière, il a un rôle de pasteur, mais voilà, le vrai pasteur est un serviteur.
Oui, c'est ça. Dans le but de faire la lumière sur ces abus, Mgr Xavier Darouet a été nommé délégué épiscopal à la protection des mineurs et des personnes vulnérables dans le diocèse. Quelle est précisément sa feuille de route ? Parce qu'il est nommé pour l'ensemble des diocèses de la province, en fait.
Voilà, donc lors de notre dernière rencontre des évêques de la province, la semaine dernière, nous l'avons fait venir pour qu'il évoque avec nous justement les différents aspects. Donc il a un rôle aussi d'éclairer les évêques, il a un rôle de soutenir les cellules d'écoute, il fait le tour des différentes cellules d'écoute avec l'accord des évêques, bien sûr, et il en tire, donc il a un rôle de formation de ces cellules d'écoute, il a un rôle encore une fois d'éclairage pour nous les évêques, et donc de nous aider à être attentifs à un certain nombre de points d'attention, voilà. Donc c'est un rôle, si vous voulez, en même temps de coordination, de vigilance. Il travaille bien sûr avec le niveau national. Il se fait aider par des personnes compétentes dans ce domaine-là. Et donc il acquiert, si vous voulez, donc une spécialisation d'une certaine manière qui est très précieuse. Une expertise, voilà, exactement, qui est très précieuse pour nous les évêques et pour les cellules d'écoute et tous ceux qui sont en contact avec les victimes.
D'autant plus que dans cet appel à cette journée de prière, il s'agit bien de prier pour les victimes d'abus sexuels, mais pas seulement, hein, puisqu'il s'agit aussi des abus spirituels. Donc là aussi, il y a peut-être un travail nouveau à faire.
Il y a un travail nouveau à faire qui est pas très facile, parce que donc arriver à discerner, à se donner les critères pour vérifier. Quand est-ce que commence l'abus de pouvoir ou l'abus spirituel, mais qui me semble important parce que, de fait, il me semble qu'il y a là des déviations qu'il nous faut mieux mettre en lumière et corriger pour, encore une fois, que l'Église soit une maison sûre et que les fidèles et les hommes et les femmes qui viennent frapper à la porte de l'Église se sentent accueillis pour eux-mêmes, respectés dans leur identité profonde et accompagnés dans le respect de leur liberté.
Oui, bien sûr. Oui. Parmi les recommandations de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, la CIAZ, avait été évoquée l'installation d'un lieu de mémoire, et nous nous souvenons de cette photo d'un enfant en pleurs qui est toujours exposée au sanctuaire de Lourdes. Est-ce que le projet d'un tel mémorial a avancé, ou est-ce que vous, au niveau du diocèse de Toulouse, vous avez un projet peut-être plus propre ?
Pour ce qui est du mémorial lui-même, qui normalement devait être mis en place à Lourdes, je ne sais pas où on en est, j'ai pas eu de nouvelles récentes, mais c'est un projet que nous n'abandonnons pas. Nous savons, il y a une détermination des évêques de France à signifier ce changement radical, puis ce désir maintenant de sortir de cette logique mortifère et d'aller jusqu'au bout des gestes symboliques de réparation que nous pouvons faire
D'accord. Merci beaucoup, Monseigneur Guy de Kerimel, de nous avoir accordé cet entretien. Je rappelle donc cette journée de prière, samedi 19 ou dimanche 20 mars selon les diocèses, avec et pour les victimes de violences et agressions sexuelles, d'abus de pouvoir et de conscience au sein de l'Église. Pour le diocèse de Pamiers, ce sera cet après-midi à 15h à la chapelle Notre-Dame de Selles, présidée par Monseigneur Echène. Pour le diocèse d'Albi, le chemin de croix, pareil, cet après-midi à Castres. Et enfin, pendant la messe des autres diocèses, la messe du dimanche, une intention spécifique dans le cadre de la prière universelle. Merci beaucoup, Monseigneur.
Merci à vous.